Radio Okapi.
À la présentation du journal, Agathe Tompona et Lema.
Okapi.
Quelques adeptes du prophète Mukungubila comparaissent depuis ce matin devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Ils sont accusés d'organisation de mouvements insurrectionnels. Ce procès est en rapport avec les événements du 30 décembre 2013 où des jeunes gens avaient tenté de prendre le pouvoir de force. Lancement des travaux de réhabilitation de la route Boma-Matadi aujourd'hui par le chef de l'État. Les 120 km de route seront réhabilités par l'entreprise Crexet pour un coût de 80 millions de dollars américains. 2015-2016, début du quinquennat de la qualité de l'enseignement en RDC. Le ministre en charge de l'éducation l'a décrété aujourd'hui à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement. Les enseignants, quant à eux, estiment qu'il n'y a pas de qualité de l'enseignement sans amélioration du social de l'enseignant. Et je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce journal sur la radio de la paix. Le procès des adeptes du prophète Paul Mukungubila s'est ouvert ce jeudi devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. 20 disciples du prophète ont comparu à la première audience d'introduction à la prison centrale, prison militaire de Ndolo. Le tribunal les a identifiés et leur a signifié les charges. Ils sont prévenus d'organisation de mouvements insurrectionnels. Le 30 décembre 2013 à Kinshasa et à Kindu, ils s'étaient emparés des armes et s'étaient attaqués à quelques symboles du pouvoir qu'ils ont tenté de prendre par la force à Kinshasa et à Kindu. C'est ce que nous explique Jeff Ngoy.
Des armes blanches, notamment quelques morceaux de bois avec des lance-roquettes et Kalachnikov sont à la barre. À l'absence de trois prévenus en cavale, dont Mukungubila lui-même, ses disciples universitaires pour la plupart s'identifient comme étant adeptes du ministère pour la restauration de l'Afrique noire. Le tribunal les appelle à se défendre en toute sérénité. Leur conseil sollicite une remise pour compulser le dossier de chacun d'eux. Le ministère public et les juges le leur concèdent pour une semaine. C'est le 30 décembre 2013 que des jeunes gens font irruption dans les installations de la RTNC et prennent en otage quelques journalistes après avoir désarmé les militaires de garde. Kinshasa est en émoi. Le même jour, un deuxième groupe attaque le camp militaire colonel Tchatchi, mais il est vite maîtrisé par les éléments de la garde républicaine. Un troisième tente sans succès de s'emparer de l'aéroport international d'Ndjili. Le bilan établi fait état de plusieurs morts et blessés graves, suivi des arrestations de certains d'entre eux.
Au nord Kivu, pour poursuivre ce journal, l'armée congolaise annonce la découverte de 4 fosses communes à Bango. Bango est un village à une centaine de kilomètres au nord-est du territoire de Beni. Selon le major Victor Massandi Boubitende, porte-parole des FRDC du secteur opérationnel Grand Nord et de l'opération Sokola 1, la découverte de ces fosses communes a été faite mardi dans l'ancien camp ADF de Baruku, déjà conquis par l'armée. D'après la même source, les FRDC souhaite une enquête internationale. On écoute le major Victor Massandi Boubitende, porte-parole des FRDC du secteur opérationnel Grand Nord et de l'opération Sokola 1. Il est au micro de Martial Papimukeba.
C'est au cours des accrochages, après la fuite de M. Baruku, le numéro D des ADF, à Bango, que nos forces dans l'occupation du camp dit Baruku, camp Bango, ils ont découvert 4 fosses communes remplies de corps de personnes humaines. On est en train de croire que d'abord ce sont des ADF qui sont tombés au cours des accrochages et aussi ça peut être des otages et des fatigués, des malades qui n'ont pas pu se mouvoir avec les groupes des fouillards, des Baruku. Les souhaits des FARDC par les commandants des secteurs opérationnels Grand Nord et Opération Soukou. C'est de préconiser une enquête internationale autour de ces 4 fosses communes.
Et dans la même province, un calme incertain règne ce jeudi matin dans la localité de Niamilima. Cela après les manifestations populaires d'hier suite à la mort de 5 habitants décapités par des inconnus. Les autorités administratives locales affirment que des dispositions ont été prises pour rétablir l'ordre, mais la société civile locale pense que la situation requiert tout de même une attention particulière. Bernard Danyangi.
Depuis 19h hier, les habitants de Niamey-Lima ont été interdits de circuler dans le village et l'armée a déclenché un couvre-feu pour rétablir l'ordre dans la cité, indiquent les sources administratives locales. Cependant, cela n'a pas empêché qu'une deuxième maison d'un autre leader Hutu soit assiégée et incendiée par les manifestants, ajoute la société civile. Pour cette source, des appels au calme lancés par les autorités ont commencé à faire baisser la tension. Malheureusement, une information faisant état d'enlèvement des 7 autres habitants de Niamey-Lima dans la même zone où les 5 cadavres ont été découverts la veille fait raviver une nouvelle fois la tension. Ces sources précisent que les 5 dernières victimes porteraient à 30 le nombre de personnes tuées dans leur champ par armes blanches ou par balles en groupement Binza depuis le début de cette année. La plupart de ces meurtres sont attribués au groupe Nyatura d'un certain Kamodoka. Les victimes seraient majoritairement Nandé. La société civile locale plaide pour que les autorités se penchent sérieusement sur cette situation. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Hier, mercredi à Boma, nous sommes là à 100 km à l'ouest de Matadi, des travaux de réhabilitation et de modernisation de la nationale numéro 1, tronçon Matadi-Boma, ont été lancés par le président de la République, Joseph Kabila lui-même. Il a posé la première pierre en présence de plusieurs personnalités, dont le premier ministre Matata Ponyo, et notre confrère Guy Roger Nyampala n'était pas loin.
Il s'agit d'une route de 120 km exactement. Les travaux consisteront à renforcer la chaussée de base et à poser le revêtement de béton et également des travaux de construction d'une nouvelle chaussée. C'est l'entreprise Grexet qui va exécuter ces travaux pour un coût total de 80 millions de dollars américains financé par un contrat de concession sur la nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa d'après Jacques Mbadoussitou, gouverneur de province. Présent à la cérémonie, le ministre du TPIR, Fridolin Kasuechi, a invité la population à faire bon usage de cette nouvelle route aussitôt terminée. Notez qu'au cours de cette même journée, Joseph Kabila a procédé également à l'inauguration de la route Mabaku au centre-ville de Boma. Depuis la ville de Boma, Guiroge Nyampala, Radio Kapi.
Parlons également de l'épouse du chef de l'État qui a officiellement clôturé ce jeudi à Lubumbashi la deuxième campagne de soins gratuits. Pendant un mois, plus de 30 000 consultations ont été effectuées et plus de 3 000 personnes opérées, notamment à l'hôpital provincial de référence, à l'hôpital militaire de la Roissy et à la polyclinique Chalina. Les pathologies soignées sont parties des plus simples aux plus compliquées. Et pour Olive Lembe Kabila, bien que cette campagne se clôture ce jeudi, certains médecins resteront encore à Lubumbashi afin d'organiser les interventions chirurgicales. Pour des cas compliqués, les malades seront déférés à Kinshasa. Et les détails, c'est avec vous, Jean Gandou.
C'est par ces mots de l'épouse du chef de l'État, Olive Lembe Kabila, que s'est clôturée la deuxième campagne de soins gratuits. Pendant 30 jours, les malades de Lubumbashi et ses environs, ainsi que ceux venus d'autres provinces et d'autres pays voisins, ont bénéficié de ces soins à en croire les coordonnateurs de cette campagne. Dr Joseph Kangoudia.
Les équipes engagées ont reçu un total de 33 788 patients pour 36 982 consultations de médecine générale et de médecine spécialisée.
Pour le ministre de la Santé publique, les malades qui sont en instance d'être opérés continueront à bénéficier de ces soins. Information corroborée par Olive Lembe Kabila.
Nous avons décidé d'instruire la coordination, de mettre en place une équipe locale pour assurer le suivi des opérations réalisées pendant 7 jours encore et prendre les dispositions utiles pour le transfert de quelques cas complexes qui peuvent être traités à Kinshasa.
Notons que cette campagne a connu la participation de médecins venus de Kinshasa et de Lubumbashi, auxquels se sont joints aussi des médecins espagnols. Au cours de ces interventions chirurgicales, 3 personnes ont perdu la vie. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Les années scolaires 2015-2016 jusqu'à 2019-2020, décrété quinquennat de la qualité de l'enseignement en RDC, c'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté qui l'a affirmé à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année. D'après Maker Mwangu, la qualité de l'enseignement reste la préoccupation du gouvernement et pour ce faire, plusieurs stratégies sont mises en place. C'est notamment la distribution des manuels, le recyclage des enseignants et l'amélioration de leur salaire. Mais pour les enseignants eux-mêmes, rehausser la qualité de l'enseignement dépend en grande partie de leurs conditions sociales. On écoute au micro de Jacques-Yves Molima, un directeur d'école primaire et un enseignant qui se sont exprimés après le défilé organisé à l'occasion ce jeudi au Char Club de Kinshasa. Suivez.
Parler de la qualité de l'enseignement, il y a un pas, mais il y a beaucoup à faire. Les manuels sont à la disposition des enfants, bien sûr, nous félicitons les ministres, mais les sociales surtout. Un salaire que nous avons là-bas, c'est un salaire insignifiant. Si on essaie, comme dans le passé, de nous donner un salaire satisfaisant, je crois bien que les tours vont bien se dérouler.
Est-ce qu'on peut parler de la qualité du travail? Quelqu'un qui n'est même pas payé, comment vous pouvez vous attendre à un bon travail? Ça, c'est du mensonge. Parce qu'on peut avoir la qualité s'il y a un bon rendement. Moi qui vous parle, aujourd'hui, j'ai au moins 20 ans de services rendus. Mais l'État congolais me paye 106 000 francs congolais. Vous vous imaginez? Et c'est comme ça que je vais fournir maintenant un bon travail.
Et voilà, ce journal est fini. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.